طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons parler de la science du hadith, علم الحديث رواية, qui est très importante, hein, c'est surtout qu'aujourd'hui, quand même, avec, on va dire, l'influence de l'école wahhabite qui prétend être aujourd'hui, on va dire, c'est comme si elle a accaparé cette science, on va dire. D'accord. Mais en fait, dans la vérité, il n'y a que le chahut. Aujourd'hui, il y a du chahut. Il y a du, parce que cette école, elle a les moyens de crier haut et fort. Elle a les sites, elle a les publications, elle a les ouvrages, elle a les chaînes de télévision, etc., etc. Donc, elle peut propager ce qu'elle croit. Mais en vérité, les grands savants du hadith aujourd'hui n'appartiennent pas à ces écoles. Actuellement, sans parler, alors si on commence à parler hystériquement, on n'en parle même pas. Mais actuellement, si on commence à citer qui ont les, ce qu'on appelle Isnad al-Ali, c'est-à-dire qui a Sanad qui rapporte les hadiths proches du Prophète, c'est-à-dire Isnad al-Ali, tu as par exemple des gens qui rapportent aujourd'hui hadith du Prophète, entre eux et Rasulullah, 30 personnes. L'autre, il te dit, moi j'ai 29 personnes. On trouve quelqu'un qui a 25. Entre eux et le Prophète, il n'y a que 25. On dit, ça c'est Isnad al-Ali, c'est-à-dire il est tellement proche. Ces grands rapportateurs aujourd'hui, sont tous des soufis, Ash'arit, ou bien Maturidit. Des soufis. C'est pas l'imam al-Kandahlaoui, subhanallah, il a istira, fatawis, on va les apporter. Donc, Cheikh Abdelba'af al-Kattani, rahmatullah, qui est en Égypte, Isnad Ali, Cheikh Abdel Hay, c'est des gens qui sont qui appartiennent à des Tolok. C'est des Shadili, c'est des Tariq al-Ghimariya, etc. Alors, concernant, on va parler des ouvrages, dans cette science-là, on va parler des ouvrages qui ont traité les ouvrages du hadith. C'est-à-dire, avant, on a traité les ouvrages qui traitent la science du hadith. Maintenant, on va parler un peu des ouvrages qui nous apportent les hadiths. Dans cette science, le hadith et le riwaya. Alors, un nombre très important de livres de hadith sont jusqu'à présent des manuscrits. Dans diverses bibliothèques qui n'ont pas été publiées jusqu'à présent, qui ont des ouvrages qui ont rapporté à Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les ouvrages qui ont été écrits, donc il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits, qui traitent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que les grands imams ont écrit leurs livres, Imam Malik, Imam Ahmed ibn Hanbal, ou bien l'imam Bukhari, ou bien, ce sont des imams qui ont été chercher le hadith avec leur chaîne propre de transmission. Ils trouvent un hadith, ils vérifient la personne de qui il prend le hadith, il essaye de vérifier la chaîne de transmission et il l'écrit. Il écrit le hadith dans son mousnad, comme l'imam Ahmed. Mousnad, pourquoi il l'a appelé mousnad, on verra après. Maintenant, juste, on va. Donc, l'imam Malik ou l'imam Ahmed, ou bien Abu Daoud, tout ce que vous voulez. Ce sont des savants de hadith, dont on va parler, inshallah, là c'est juste une introduction, qui ont écrit des livres de hadith. Ils n'écrivent pas un livre de hadith, le premier venant, tu connais le hadith, viens. Non, ils essayent de vérifier un peu.
Est-ce qu'ils ont essayé de comprendre le hadith? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
Oui, bien sûr. C'est normal, bien sûr. Il ne peut pas écrire un hadith sans le connaître, hein, sans connaître son sens, etc. Bien sûr. Ensuite, il est d'accord, pas d'accord, et lui, l'essentiel, il écrit le hadith. D'accord? Il écrit le hadith, même si le hukm qui est le hadith lui fait le contraire, parce qu'il n'est pas là pour, il est là pour rassembler la matière première. Ensuite, il va travailler cette matière. D'accord? Il est là pour rassembler le hadith, professeur sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il viendra le rôle, est-ce qu'il va l'accepter, est-ce qu'il va prendre de ce hadith, ou bien prendre dans le hadith qui le contredit, ça c'est autre chose. Là, juste écrire l'ouvrage pour mettre dedans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a ceux qui ont été tellement stricts qu'ils n'acceptent que le hadith authentique, 100%, tel qu'Imam Muslim, Imam Bukhari, etc. Il y en a d'autres, non, ils étaient un peu plus légers, etc. On va parler de tout ça. Alors, vous avez des livres tels que le Musnad de l'Imam Ahmed, qui regroupe ...750 000 hadiths. Donc le Musnad de l'Imam Ahmed regroupe 750 000 hadiths. C'est-à-dire, il a... c'est-à-dire, le Musnad en lui-même, quand on le prend, il n'y a que 40 000. Il n'y a que 40 000. Mais il a ces 40 000, il les a pris de 750 000. D'accord ? Donc il a eu accès à 750 000 hadiths. Il a eu accès à 750 000 hadiths. Ensuite, il a pris de des 750 000, 40 000 hadiths. D'où son mousnad, il y a dans le mousnad de Mohamed 40 000. D'accord ? Mais faut, Inch'Allah. Donc lui, parce qu'il n'a pas accepté, ça veut dire qu'il n'a pas accepté tous les hadiths. Donc, tous les autres, il ne les a pas acceptés. Donc, il a pris des 750 000 dont il avait accès que 40 000. C'est pour cela que les gens, ils croient que... Regardez, le Musnad d'Imam Ahmed, il y a 40 000 hadiths. Les gens, ils croient qu'il y a un hadith qui n'est pas de Musnad, que l'Imam Ahmed ne le connaît pas. Non, il a eu accès à 750 000. Donc, il est fort possible qu'il soit parmi ceux qui n'ont pas accepté. D'accord ? Comme ceux qui reprochent Imam Malik, ah non, Imam Malik n'a pas eu accès. Qu'est-ce qui te fait dire? C'est pas parce qu'il n'a pas cité dans le Muwatta qu'il ne le connaît pas. Il a cité dans le Muwatta ceux que lui reconnaît qui sont authentiques, etc. L'imam Suyuti, dans son ouvrage Jam' al-Jawami', donc Jam' al-Jawami', c'est un grand ouvrage, un grand ouvrage. Il a essayé de rassembler le maximum des hadiths professeurs, où il y a à peu près 100 000 hadiths. Donc il y a 100 000 hadiths dans le kitab Jam' al-Jawami' de Suyuti. Donc il a dit, l'imam Suyuti dit, j'ai essayé de rassembler tous les hadiths que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou a fait, ou a autorisé. La rationnelle du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Alors les ouvrages qui ont rassemblé qui ont regroupé ces ouvrages, c'est-à-dire les ouvrages du Sunna qui ont essayé de rassembler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas été tous écrits à la même époque. Donc on va parler des différentes étapes de rassemblement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont classé les livres de hadiths, ils les ont classés selon le degré d'authentification et selon le degré d'authentification, voilà, selon le degré d'authentification, on va dire. C'est-à-dire le hadith plus authentique, bon, faible, etc. D'accord. Ils disent, voilà, les livres de hadith sahih, tant, les livres qui ont traité qu'il y a des hadiths bons, tant, les livres qui, il y a beaucoup de hadiths faibles. Ensuite, il y a les livres qu'on trouve que des hadiths fabriqués. D'accord. Alors, la première catégorie de livres, c'est celle qui sont considérées comme c'est-à-dire de, on va dire, des hadiths les plus fiables, hein, les plus fiables, les plus, qui ont rassemblé les hadiths les plus authentiques, tels que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik. Donc, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta de l'Imam Malik, on trouve dans ces ouvrages les hadiths authentiques, mutawatir, c'est-à-dire rapportés par un nombre important de sahaba, d'accord ? Ou de ce sahaba, ou la deuxième ou troisième génération, parce que on parle c'est-à-dire c'est les trois premières chaînes du hadith qui nous intéressent dans l'étude. D'accord. Donc ces ouvrages, Bukhari, Muslim et Muwatta, Malik, on trouve un hadith authentique rapporté par un nombre important sahaba qui s'appelle Mutawatir, comme on peut trouver des hadiths sahih, mais ahad. Ahad, on va dire, rapporté par un ou deux compagnons, ou des tabi'in, ou des atba' tabi'in. Hadith Ahad, authentique Ahad. Et on peut trouver des hadiths bons, Hassan, ça ne sont pas authentiques, mais bons. وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ وَطُرْقًا وَغَادَتْ رِجَالُهُ لَكَ الصَّحِيحِ اشْتَهَارَتْ Inch'Allah. Après, là, on est toujours dans les introductions. Après, on verra quelles sont les conditions des hadiths authentiques. Pourquoi le hadith il est bon, il n'est pas authentique. Bien qu'il n'y a pas une grande critique dans ce hadith, mais il est bon. On ne le considère pas comme authentique. Et comment un hadith bon ou authentique, pourquoi il n'est pas authentique, pourquoi il descend et il devient faible. La cause. Ou bien, pourquoi il est, fabriqué ou, comment on dit, forgé. Alors, deuxième catégorie de livres de hadith, tels que le Jami' de l'imam Tirmidhi, s'appelle Jami' Tirmidhi, ou bien Sunan Abu Daoud, donc Jami' Tirmidhi, Sunan Abu Daoud, le Musnad de l'imam Ahmed, donc on a Jami' Tirmidhi, Sunan Abu Daoud, Musnad de Ahmed ibn Hanbal, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i. Donc ces ouvrages-là n'ont pas atteint le degré d'authenticité de Bukhari Muslim et Muwatta Malik. Ils sont moins authentiques. D'accord. Bien que ceux qui ont écrit ces ouvrages-là n'ont pas cherché vraiment la facilité. C'est pas qu'ils étaient pas aussi, mais c'est leur méthode qui leur a permis de rassembler des hadiths. Et donc les savants ont accepté ce genre d'ouvrage, livres de sunnah tels que Tirmidhi, Abu Daoud, Musnad Ahmed, An-Nasa'i. Et ce sont les ouvrages dont la plupart des commandements de la charia ont été tirés. Bien que c'est des hadiths bons en général, authentiques et même faibles. Et dans même, on trouve même des hadiths faibles dans ces ouvrages-là. Malgré que dans ces ouvrages-là, dans le Musnad Ahmed, il y a des hadiths faibles. D'accord. Donc dans ces ouvrages-là, la plupart des commandements de la charia sont tirés de ces ouvrages-là. Alors, les savants du hadith se basent généralement, en général, sur ces deux catégories d'ouvrages de hadith. Donc les grands savants du hadith, les muhadithoun, se basent spécialement sur la première et la deuxième catégorie qu'on a citée. La première catégorie, le Shaykhan, c'est-à-dire le Bukhari Muslim, et le Muwatta de Malik, et la deuxième catégorie, celle de Tirmidhi, Nasa'i, Ahmed ibn Hanbal, Numajah. Donc les grands savants du hadith spécialement se concentrent sur ces deux catégories. On va parler de la troisième catégorie. Ouais, il peut y avoir, oui. Mais très très rare. Mais il peut y avoir. Ouais. Mais ils ne savent pas. Voilà, pour lui, c'est. Non, parce que tu ne trouveras pas un savant du hadith qui sait qu'il est maudou, il va le faire. On ne le trouve pas. Mais il y a une toute petite critique qu'on va voir que. Un jour, Inch'Allah, on va faire une critique, vous allez être stupéfiés de la méthodologie. Deux savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim, surtout Ibn Al-Qayyim, qui est considéré un hafif, Ibn Al-Qayyim c'est un hafif, et qui connaît parfaitement la méthodologie, comment être, il faut être d'une façon scrupuleuse, c'est-à-dire dans la. Et qui il camoufle un hadith, il le camoufle vraiment bien, hein, il le camoufle, machin, parce qu'il est selon son goût, il donne des vitamines pas possibles pour le rendre fou. Mais faux, pour le rendre authentique, mais. C'est d'une façon incroyable. D'une façon incroyable. Parce qu'il est selon, c'est-à-dire il est selon sa aqida. D'accord. Il va même parler comme si c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié le hadith. Oui, parce que dans la science du hadith, on étudie la chaîne de transmission. Il dit, voyez, ce hadith-là, vous voyez, hein, il y a dans la chaîne de transmission, il y a tel, hein, et tel, n'oubliez pas que c'est quelqu'un que le Bukhari a rapporté des hadiths, hein, de lui. Or, ce n'est pas comme ça qu'on étudie la science des hadiths. Ce n'est pas comme ça qu'on rend un hadith authentique. En parlant d'une personne dans la chaîne. Pourquoi ne pas parler des autres? Ensuite, dire que le Bukhari, il lui a rapporté, or le Bukhari lui a apporté un seul hadith, et le hadith que le Bukhari lui a rapporté, il ne l'a pas apporté en tant que lui, qu'il est authentique, il l'a ramené parce qu'il est fort par d'autres hadiths qui l'ont rendu fort, il lui a ramené un seul hadith, le Bukhari. Donc quand il veut, vraiment, et quand il veut casser un hadith, on va ramener. Je vais vous donner l'exemple typique d'un grand cheikh du Bahreïn qui, a fait une très bonne étude critique de la méthodologie d'Ibn Qayyim, comment il joue, on va dire, quand il veut donner une force à un hadith et quand il veut casser un hadith, puisque c'est la même méthode que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il manque beaucoup d'objectivité dans leur méthodologie. Donc on a la troisième catégorie où on trouve beaucoup de hadiths faibles et chèvre, on dit chèvre, c'est... Il est un chef, c'est que il est rare et il contredit tous les autres hadiths. Rare, marginal, ajoutez ça. Ou bien munkar, hadith munkar. Ou bien muftareb, où il y a des hadiths qui contredisent d'autres. Dans cette catégorie de. Je vais vous dire dans quel ouvrage. Tel que le musnad de Ibn Abi Shayba. Bien que c'est considéré parmi les premières générations de l'islam, c'est des ouvrages très anciens. Le musnad d'Ibn Abi Shayba, ou bien le musnad de Tayalisi. Le musnad d'Ibn Abi Shayba, ou bien le musnad de l'imam Tayalisi. Tayalisi. Ou bien le musnad, le musannaf de Abdel Razak. Ou les ouvrages de l'Bayhaqi, les sunan de l'Bayhaqi. Ou de Tabarani. À distinguer de Tabari. Tabarani. Ou les ouvrages de Tahawi, dans le hadith, même Tahawi, hein, c'est sahib al-Tahawi. Alors, cette catégorie d'ouvrages du hadith, seuls les spécialistes aguerris, grands spécialistes en hadith, qui peuvent tirer des commandements, des ahkam, dans les hadiths cités dans ces ouvrages-là, tels que, surtout, pourquoi? Parce que comme ce sont la plupart des hadiths critiquables, comme c'est des hadiths critiquables, c'est-à-dire avec le hadith de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, on n'a pas beaucoup de problèmes. Donc il est authentique, on va voir juste s'il est spécifique, machin. Mais dans ces ouvrages de Abi Shayba, Tayalisi, Musannaf Abdul Razzaq, Sunan al-Bayhaqi, Tabarani, Tahawi, seuls les grands spécialistes, grands spécialistes du hadith, qui peuvent tirer des commandements de ce genre. Parce que c'est pas ça, ça fait rire, moi, quand je vois, comme ça, bêtement, tu dis, ah bon, ce hadith, il est dans Tabarani, il est dans... Mais attends, qui est-ce qui le considère comme un argument? Il faut voir qui est-ce qui, si tel, l'imam Kawthari, ou bien des gens, c'est-à-dire de muhaqqiq, c'est-à-dire qu'il a vérifié vraiment le hadith, parce que quand c'est des hadiths critiquables, pour le rendre hadith crédible, il faut faire une étude vraiment très approfondie. Pour voir est-ce qu'il ne devient pas bon ou fort parce qu'il y a d'autres ramifications, etc., etc. Ça demande un grand travail pour savoir comment on utilise ce hadith-là. Est-ce que vous avez compris? Alors, la quatrième catégorie et la dernière, ce sont des ouvrages de hadith qui ont été écrits par des, je sais pas si on veut dire par des savants, ils ont été écrits, mais ce sont pas des hadiths qui correspondent à la science du hadith. Donc ceux qui les ont écrits, parce qu'ils ont entendu des gens qui les rapporteurs d'histoire. C'est-à-dire, les gens qui racontent des histoires. Pas l'histoire d'histoire, hein. Pas l'histoire abbasside, machin. Non, hein. Il est dans un marché, il dit, vous savez, un Jusin Ali, il a sorti son épée, et il raconte. Ah lui, il écrit. Il y avait un hadith. Donc, ils prennent n'importe quoi. Ce sont des écrivains qui ont écrit des ouvrages de hadith, mais qui ne sont pas pris des rapporteurs de hadith. Ça ne répond pas aux règles. Ils ne l'ont pas pris comme le prennent les vrais spécialistes qui font des conditions de rapporteurs de hadith, mais ils les prennent des rapporteurs de ceux qui racontent les histoires.
Les comptes,
voilà, exactement. Les comptes, on dit les compteurs, voilà. Les comptes, etc. Et aussi, des fois, des gens de bid'a, Moubtada'i va inventer un hadith, va rassembler plein de petits comme le chiite, etc. Ils vont mettre un stock de hadith qui répond à leur. D'accord. Eux, ils mettent. Il veut écrire un livre. Tout ce qui lui passe à côté, hop, il l'écrit dans ce livre-là. Donc, ces livres-là n'ont aucune crédibilité chez les spécialistes du hadith. Et parmi ceux qui ont écrit ces ouvrages, on trouve Ibn Mardawayh. Ibn Mardawayh. Ibn Mardawayh, il a écrit, donc il a rempli son livre de ce genre de hadith. Ibn Shahin, Ibn Mardawayh, Ibn Shahin. Maintenant, on va. On va parler. Quels sont les ouvrages importants important du hadith. La troisième catégorie, ils ont une méthodologie de. Ils répondent à la méthodologie des sciences du hadith. Hein, la troisième catégorie. Non, ils n'avaient pas cette intention de rapporter. Et leur méthodologie n'était pas aussi stricte que ceux qui les ont précédés. Donc, leur méthodologie, elle n'était pas aussi stricte que les autres. Donc, ils se sont retrouvés à mettre des hadiths faibles, etc. Alors, la première catégorie, on les appelle Kutub al-Sihah, on va dire les livres des hadiths authentiques. Alors, elle regroupe le Kutub al-Sitta, c'est-à-dire les six livres. Les six livres qui sont al-Bukhari. Quand on dit les six livres, automatiquement, il faut comprendre qu'il s'agit de al-Bukhari, de Muslim, de Abi Daoud, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, al-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Alors, vous remarquez qu'il y en a six. Il n'y a pas de Muwatta. Ah. Sauf que les savants, ils ont divergé sur le sixième. Alors, il y en a des savants qui ont dit non. Donc, je répète, les six livres, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Alors, vous remarquez qu'il y a quand même, ils ne sont pas classés comme ça, hein. Ils ont classé, regardez, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. C'est-à-dire, ils sont classés, même la classification, elle est importante. Du plus authentique, vous voyez. Alors, pour Ibn Majah, il y a divergence. Il y a beaucoup de. Bon, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de savants qui ont classé le Muwatta, le sixième, mais pas celui d'Ibn Majah. Non, à sa place. Non, c'est-à-dire ils mettent à la place de Ibn Majah le livre de Muwatta, donc c'est les six. Il y en a six, d'accord. Ensuite, on parlera d'autre chose. Donc, il y a plein de savants qui disent le sixième, c'est pas Ibn Majah, c'est le Muwatta de Malik. Donc, il y a divergence entre les savants sur cette question-là, bien que la majorité considère que le sixième, c'est celui d'Ibn Majah. Oui.
Le Muwatta, il viendrait quand même à la place de la semaine d'Ibn Majah.
Oui, selon quelques savants. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Exact. On va parler pourquoi, Non. Quelle est l'autre question? Deuxième catégorie, bien sûr. Non. Alors, quand on dit les cinq livres. Donc c'est clair, il y a ni Muwatta ni Ibn Majah. Voilà. Donc quand on dit les cinq livres de Sunan, il s'agit de quoi? Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i. Ça, voilà. Donc on parle. Quand on dit les six livres, des fois on parle de Ibn Majah, des fois on parle de Mu'tal Malik. Non. Parce que des fois on dit rapporté par les cinq. Des fois, non. Non, parce que ils vont parler de pas seulement de la question d'authenticité, mais du nombre et aussi des commandements qui ont été tirés des hadiths. Ils ne prennent pas seulement le paramètre de l'authenticité seulement. Non. Alors quand on dit as-sahihayn, les deux livres authentiques, on parle de Bukhari et Muslim. Quand on dit rapporté par les deux cheikhs, Cheikhan, ça parle de Bukhari et Muslim. Donc quand on dit rapporté dans les sahihayn, les deux sahih, sahihun, hein, sahihayn, deux. D'accord. Rapporté par Cheikhan, c'est que les deux cheikhs, Cheikhan, Bukhari et Muslim. Quand on dit muttafaq alayh, ils sont d'accord sur ce hadith. Muttafaq alayh. Qui est d'accord sur ce hadith? Bukhari et Muslim aussi. Alors, à chaque fois, si vous trouvez rapporté, le hadith il est rapporté par. Il existe dans les deux livres authentiques, ou bien authentifié par les deux cheikhs, ou bien ils sont d'accord, c'est une terminologie pour dire que ce hadith se trouve dans le Bukhari et Muslim. Je reviens. On les a appelés, c'est-à-dire les cinq, ou bien les six, Kutub Siha, c'est pas pour dire que ce sont les livres où il y a les hadiths authentiques seulement dans ces livres, mais pour parler que la majorité des hadiths traités ici, dans six, les six ouvrages, sont des hadiths authentiques. À la Sirati Tarlib, que la majorité des hadiths dans ces ouvrages sont des hadiths authentiques. Me font que la majorité, puisqu'on a Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, il y a plein de hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais quand on les regroupe tous, la plupart des hadiths qu'il y a dans ces ouvrages, sinon comme a dit l'imam Suyuti dans l'introduction dans son livre Jam' al-Jawami', si on se réfère au titre donné. Si on se réfère au titre donné par les savants du hadith à leurs livres, il y a d'autres livres qui portent le nom de Sahih, tels que Sahih Ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah, vous connaissez. C'est un savant du hadith, il a écrit un livre qui s'appelle Sahih. Pour lui, il pense que les hadiths sont authentiques. Mais une fois que les savants sont venus, ils ont étudié ces ouvrages-là, ils ont trouvé que il y a plein de hadiths qui sont même faibles. D'accord. Mais le fait qu'il a donné le titre de Sahih, ça n'empêche pas qu'il y a des hadiths faibles. Donc les savants, ils sont très... C'est-à-dire, ils ne laissent pas passer comme ça les choses. Au Sahih, Abi Awana, ou Sahih, Ibn Hibban. Alors, Ibn Khuzaymah, vous mettez mort en 311 de l'Hégire. Ibn Awana, mort en 316 de l'Hégire. Ibn Hibban, mort en 354 de l'Hégire. Etc. Donc vous remarquez qu'il y a des ouvrages du hadith qui portent le nom de Sahih, mais à l'intérieur, ce n'est pas Sahih. Donc les savants, ce n'est pas parce qu'ils portent le Sahih, ils l'ont mis avec le Sahih. Ils ont choisi les six livres, ils les appellent Sahih Sita. Ce n'est pas parce que tous les hadiths qu'il y a dans ces livres-là sont authentiques, mais que la majorité qui sont dans ces livres-là, c'est des hadiths Sahih. D'ailleurs. Alors, chacun des ouvrages des hadiths, il porte une spécificité. Chaque ouvrage de hadith porte une spécificité. Les ouvrages qu'on a cités, hein, les six. Alors, pour... bien sûr, on est en train de parler, ces ouvrages de hadith sont destinés aux savants. D'accord. Alors, Sahih al-Bukhari, il est plein, il est gorgé de questions de fiqh. Plein. Bon, il est gorgé. Pour celui qui veut approfondir les questions de fiqh. Pour Sahih Muslim, pour un chercheur en hadith qui veut éviter les commentaires, il y a Sahih Muslim. Donc, où Muslim dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite il fait un petit commentaire. C'est-à-dire, il ne fait pas de commentaire, il évite que ce que le Bukhari dit, ajoute. Mais lui, il ne la rajoute pas. Il ramène directement le prophète, ce que le prophète a dit. Il évite les petits commentaires des savants du hadith. On ne trouve pas dans son livre directement. D'accord. Alors, celui qui veut approfondir la science du hadith, il va chez Sunan al-Tirmidhi. Donc chez l'imam Tirmidhi, non seulement il nous rapporte les hadiths, mais de temps en temps, il nous fait des petits rappels. Voilà ce hadith-là, il est mon cœur, machin, voilà, ta'arif le mon cœur. Ce hadith-là, il est ceci, cela. Voilà. Donc, il nous fait des petits cours, des petits rappels de la science du hadith. Enfin, ça, c'est une spécificité chez Tirmidhi. Donc, celui, le chercheur qui veut voir les hadiths qui traitent des ahkam, hadiths qui traitent des ahkam, c'est-à-dire fiqhiyat ahkam, les commandements directement, Sunan Abu Daoud. Et celui qui veut voir comment les hadiths ont été bien répartis selon les chapitres, il consulte Sunan Ibn Majah. La méthodologie, elle est importante. Ça, c'est des ouvrages de hadith qui vont te fatiguer. Ils sont très mal répartis. Il n'y a pas de... À la fin, le... Comment on dit ? Le sommaire, tout ça, bien dit. Il y a des hadiths sont halotas, c'est-à-dire, c'est difficile. C'est pour ça, il y a un grand travail qui se fait après, derrière. Donc, Ibn Majah, il a bien réparti, etc., etc. Pour Sunan al-Nasa'i, on trouve toutes les qualités qu'il y a dans les autres ouvrages. Il a traité du fiqh, il a bien réparti, il fait des commentaires du hadith, la science du hadith, voilà. Donc l'imam Nasa'i, il a quand même, c'est pour ça qu'on les a pris, on ne prend pas parmi les kutub sahah qu'un seul paramètre parce qu'il est authentique. On a d'autres paramètres. Naam.
Pourquoi dans les six, on n'a pas l'imam Ahmed?
Aussi parce qu'il y a moins de hadith authentiques, et que, c'est-à-dire, on a parce qu'il ne répond pas à ces paramètres-là. C'est-à-dire rapporter les hadiths beaucoup plus authentiques, bien répartis, traiter que les hadiths parlent des questions de ahkam, ou bien de aqida, que les commentaires de hadith, c'est-à-dire on prend beaucoup de paramètres, plusieurs paramètres.
Il n'est pas rangé pareil.
Le rangement, etc. Bon, il est rangé sur le masanid. Non. Alors, le livre de Sahih al-Bukhari, il est, on va dire, il passe avant Sahih Muslim. Bukhari passe avant Sahih Muslim. On va dire, ce n'est pas une question plus authentique, mais il a plus de crédibilité. Ils sont tous, si vous voulez, de crédibles. D'accord. Pourquoi? Parce que l'imam Bukhari, il a fait, dans l'acceptation du hadith, il a fait deux conditions. Que l'imam Muslim, il a fait une seule condition. Alors, les deux conditions que le Bukhari a fait dans l'acceptation du hadith, il a dit, il faut que celui qui rapporte le hadith d'un autre soit à la même époque. Un, il a vécu au deuxième siècle, l'autre au troisième siècle. Je suis désolé, il dit, je rapporte hadith de tel. Bah, il y a 120 ans entre vous, je suis désolé. Tu vois, Bukhari, il dit, il faut qu'ils soient à la même époque. C'est-à-dire, ils ont vécu à la même époque. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut qu'on est sûr qu'il l'a pris de lui. Il l'a entendu de lui. Sama. Il faut qu'on soit sûr qu'il l'a entendu de lui. Qu'on vérifie ça. Pour l'imam musulman, non. Il dit, il suffit qu'il soit à la même époque. Puisque c'est des gens fiables. L'imam musulman, il te dit, puisque c'est des gens fiqa, fiables. S'il dit qu'il a pris le hadith de tel, moi je lui fais confiance. Sûrement qu'il a entendu. Mais l'imam Bukhari, il ajoute une condition. Donc si le hadith il est dans le Bukhari, c'est que vraiment... donc il est vraiment authentique, authentique. Il n'y a rien à voir. C'est pas la peine de... me forme. C'est que non seulement il était à son époque, mais il l'a entendu de lui. Les deux rapporteurs. Me forme. Il y a un problème ? Chez le Bukhari musulman, bien sûr. Il y a bien sûr Daraqutni, il fait une critique grave pour Sahih Muslim, machin, etc. On reviendra. Mais est-ce que c'est pour autant il a raison, il n'a pas raison? C'est toute une discussion entre les savants. Ah. Alors l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son introduction de Fath al-Bari, nous dit que le nombre de hadiths qu'il y a dans le Bukhari, 9082. Alors ceux qui ne sont pas, parce que dans 9082, il y a plein de hadiths qui sont répétés. C'est les chaînes qui diffèrent pour authentifier un hadith, d'accord. Ceux qui ne sont pas répétés, il y en a 2602. Dans le texte, hein. Pourquoi? Vous savez, ces savants de hadith, vous avez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici. Vous avez un hadith. Le même hadith, Allah, le même hadith, il est rapporté, celui-là il est rapporté par cette chaîne, celui-là il est rapporté par cette chaîne. Regardez, deux hadiths, ils sont rapportés par différentes chaînes. Il est rapporté aussi par le même hadith, hein? hadith, il est rapporté par cette chaîne. C'est pas les mêmes rapporteurs. Alors vous avez les deux chaînes, elles sont authentiques, il n'y a aucun problème. Tous les rapporteurs, ils sont fiables, 100% bien, il n'y a aucun problème. Donc les deux hadiths, c'est le même, ce qui nous rapporte, c'est le même. Donc on dit le hadith, ça il est authentique, on est bien d'accord. Ils sont authentiques, fiables. Par contre celui-là, ils sont bien. Ici il y a un tout petit problème, et on ne sait pas, il l'a rencontré, il ne l'a pas rencontré, on ne sait pas, etc. Mais le contenu qui est cité ici, c'est lui qui est cité ici. Donc le fait qu'il y a ces hadiths-là, rend ce hadith-là, il lui donne un peu de force. Puisque le même contenu qui est cité, et puisque la chaîne de transmission, elle est très bonne. Donc le Bukhari, il va citer les trois dans son sahih. D'accord? Il va citer les trois dans son sahih. Mais il va citer celui-là, pas pour sa considération lui-même, c'est parce qu'il a été... il est devenu fort par la présence d'eux autres. Alors c'est pour ça que je vous disais, Ibn al-Qayyim, il prend celui-là, il dit, il va où il y a le problème. Il dit, voyez celui-là, il est cité dans le Bukhari, attention, machin. Mais il ne nous dit pas qu'il a été cité. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est fort, c'est parce que les autres l'ont rendu fort. Vous remarquez, il y a quand même différence.
Est-ce que les experts qui s'absentent?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le commun des gens, Ibn al-Qayyim, il te dit, il est dans le Bukhari, toi, ça, il est dans le Bukhari. Mais il y a toute une étude là-dedans. C'est très... Et le pire, c'est qu'il prend le cas inverse. Vous avez compris? Là, on est en train d'essayer de palper, de voir comment la science du hadith, c'est pas... On ment sur les gens. Wallahi, on ment. Et ces menteurs-là paieront cher le jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'on profite... des sciences qui ne sont pas au commun des gens. La prière, son nom, le professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Imam Malik, qui a 900 chers, qui était proche du professeur, ne connaît pas ça. Imam Abu Hanifa, qui a connu les compagnons du professeur, ne connaît pas ça. Pour qu'il y ait bien quelqu'un qui vit au XXe siècle, nous montre comment le prophète vit. Tu as vécu avec lui. Tu crois comment tu dis la prière du prophète? Et les autres, ils racontent quoi? La prière de qui? Subhanallah. Vous voyez comment on rapporte des hadiths. La science du hadith, vous allez voir, Inch'Allah. C'est pour ça que j'ai insisté que ce soit la matière. Vous allez voir comment la science du hadith, elle est très importante et elle est très subtile. Et elle demande une grande intelligence. Et on va voir, on va démontrer A plus B comment c'est-à-dire, on accepte. Quand ça nous arrange, on accepte des contradictions et des critiques pas possibles. Et quand ça ne nous arrange pas et qu'il y a des choses qui tiennent vraiment authentiques, on leur cherche la petite bête, quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça l'objectivité. Alors,
Ibn al-Qayyim, il a fait ça Connaissance de cause.
Ah oui. La vraie connaissance de cause. On a des preuves pour cela. Preuves. Allah subhanahu wa ta'ala fait tawaf sur terre, c'est un attribut pour prouver que l'attribut du tawaf. Donc, tu imagines, Allah azza wa jalla, on lui attribue le tawaf. Donc, il faut ramener tous les arguments du monde pour prouver qu'Allah fait le tawaf sur terre. Donc, tu vois. Non. Alors, le nombre de hadith qu'il y a dans Sahih Muslim, sans répétition, non. Non, excusez-moi. Donc la parole d'Ibn Hajar, on la trouve dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, tome 1, page 470. D'accord, c'est donc ça ce qu'il a dit l'imam Ibn Hajar. Alors, le nombre de hadiths qui se trouvent dans Sahih Muslim, sans répétition, 4000 hadiths. Alors, il y a bien sûr, il y a des hadiths qui sont authentiques, qui ne sont pas dans le Bukhari Muslim. Donc, il existe. Même eux, ils ont reconnu qu'ils sont hadith, qu'ils sont authentiques, mais ils ne les ont pas mis dans leurs ouvrages pour diverses raisons. Pour le Muwatta de l'imam Malik, donc point de vue authentification, il vient en troisième degré. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a eu même un débat. Quel est le livre le plus authentique? Est-ce que c'est le Muwatta ou bien le Bukhari? Donc, si on parle point de vue cœur, on dit c'est le Muwatta. Mais point de vue objectivité, on va dire c'est le Bukhari. Donc bien que j'ai vu des écrits, beaucoup d'écrits de Mauritaniens qui, quand même, ils ont ramené des arguments très très solides pour favoriser l'authenticité de l'imam Malik par rapport à... Mais bon. Mais la majorité des savants disent que c'est le Bukhari. Donc le Muwatta de l'imam Malik, point de vue authentification, point de vue hadith authentique, il vient en troisième degré. Alors, les savants qui ont placé le sixième livre, pour répondre à la question du frère, de Muwatta de l'imam Malik, ils n'ont pas classé en sixième livre des livres authentiques, ils ont placé Ibn Majah, parce que dans le Muwatta de l'imam Malik, il y a beaucoup de hadiths qui s'appellent Mursal. Hadith Mursal. Mursal ou Mursal minhu sahabi ou saqat. Donc ce sont la plupart des savants qui ont classé le Muwatta de Malik, après celui de Ibn Majah, c'est-à-dire ils ont placé le Sunan Ibn Majah en sixième livre. Pourquoi? Parce que le Muwatta de Malik, il porte en lui plein de hadith mursal. Que veut dire hadith mursal? Où l'imam Malik nous rapporte des hadith avec chaîne de transmission, hop, arrivé au sahabi, on ne trouve pas le nom du sahabi. C'est-à-dire du tabi'i, hop, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela. Comme dit Sahab Bayqouniya. Donc, on a des hadiths, mais on sait que c'est des hadiths authentiques. Mais quand même, il faut qu'on sache qu'il les a dit. Pour plein de chercheurs de spécialistes de hadiths, tu dis, de toute façon, puisqu'on sait que c'est un sahabi, donc, les sahabis sont tous suffisables, donc il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, non, on veut savoir. Donc, c'est une critique. Avancé à l'imam Malik. C'est pour ça que Ibn Abdelbar, il est venu après, il a dit, moi je vais vous citer tous les hadiths, et tous les hadiths, qui c'est le sahabi qui n'est pas cité. D'accord? Oui, il a fait ça. Non.
Mais avec une seule chaîne, comme si je prends le...
Oui, oui.
On a une seule chaîne,
ouais.
avec un
ouais.
Comment on peut savoir si il est authentique
ou pas? Oui, c'est les spécialistes qui nous disent. On va étudier après les conditions des hadiths authentiques. C'est-à-dire qu'on voit la chaîne, ce rapporteur est fiable, celui-là il est fiable, il est fiable, il est fiable, il est fiable. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire fiable, fiqa. C'est quoi fiable? Qui est-ce qui dit qu'il est fiable et qu'il n'est pas fiable? On va étudier cela. Il l'a rencontré, oui, il l'a rencontré, il lui a rapporté le hadith, oui. Hop, ici, le tabi'i qui prend du sahabi, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. On sait que le tabi'i n'a pas rencontré le prophète. Donc il l'a pris d'un sahabi, mais il ne le cite pas. D'accord?
La question, comment on sait reconnaître un hadith si vrai d'un faux, quand c'est un faux hadith a été inventé, et qu'on invente une vraie chaîne de transmission qui soit cohérente?
Parce que déjà, ce hadith, il est dans le Muwatta. On parle des hadiths qui sont dans le Muwatta. Dans le matin, de toute façon, on sait que c'est sont authentiques. On connaît la méthodologie de Mamalek et ça rigole pas. C'est-à-dire, Boukhari lui-même, c'est authentique. Qu'il a étudié toute la chaîne. Ce qu'il a accepté, c'est qu'il est authentique. Donc, après étude de la chaîne, elle est bonne, la chaîne. Son seul problème, c'est qu'ici, il manque le nom des sahabis. Qui a pris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, s'il y a beaucoup de sahabis, ce n'est pas un problème, puisque c'est un sahabi. Et tous les sahabis sont fiables. Donc, pourquoi on cherchait qui c'est qui ce sahabi? Puisque de toute façon, que ce soit X ou Y, le hadith, il est accepté, puisque tous ces sont fiables. D'autres disent, non, on veut le savoir. Donc c'est une critique apportée au Mouta. Chez Ibn Majah, on trouve le nom des sahabis. Ça, c'est la première chose pourquoi on l'a déclassé. Non.
Alors, admettons un savant du hadith, il invente un hadith, et il dit une bonne chaîne. Avec chaque rapporteur, il est bien, il est fiable, il est fiable. Comment on sait que ce qu'il a dit, c'est pas vrai?
Il y a des études hein, sur ça.
S'ils sont arrêtés, ils n'ont jamais entendu. Hein.
Oui, mais c'est des spécialistes, ne t'inquiète pas. C'est des vrais spécialistes. Hein. Ils ont des trucs inimaginables. On a parlé de la science tout à l'heure des Hillel. Ils vont parler. De lui. Déjà, commençons par lui. Il a entendu de qui? Ils vont vérifier, est-ce que vraiment... C'est pour ça que le Bukhari l'a dit, il faut qu'il soit... Même pas qu'il l'a entendu, il y a des preuves qu'il l'a entendu. D'accord. Ensuite, mais vraiment, je vais vous apporter des exemples. Voilà. Non seulement rencontré, mais entendu. On peut se rencontrer, mais je n'ai pas entendu de toi. Des preuves que l'île... Oui, l'autre qui dit, oui, j'ai assisté quand tu lui as dit. Tu vois, il y a des preuves. Mais ensuite, on différencie qui. C'est-à-dire, un savant du hadith, c'est des gens, Ibn Hajar, Nawawi, c'est des gens honnêtes, c'est-à-dire, ils ne vont pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de savoir qui dit quoi. C'est pour ça qu'ils font attention à des gens du bid'a. Hop, celui-là, non, Bukhari, Muslim, Ibn Hajar, Nawawi, etc. Il n'y a pas de problème, on sait que ce sont des gens fiables. Si quelque chose lui échappe, c'est par erreur, ou par, ou bien waham, on dit aussi waham, c'est-à-dire, pas négligence, mais ça, l'erreur est humaine. Ça arrive, hein, que le Hadjar dit, ou une société dit, voilà, ça se trouve dans tes livres, et ça ne l'est pas. Mais, rare. C'est pas 3000 fois, 4000 fois. Là, c'est pas normal. Mais faut Michel. Taïb, revenons. Donc, on a dit la première chose, pourquoi il a été déclassé, le Mouatta Malik, à cause des Hadith Morsel. La deuxième chose, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de questions de fiqh. Donc il est beaucoup considéré comme ouvrage du fiqh que de ouvrage du hadith. Imam Malik parle de questions de fiqh. C'est-à-dire, il dit pour nous, les gens de Médine, nous, pour cette question-là de fiqh, voilà ce qu'il faut faire. Donc il y a plein de hadith qui traitent du fiqh, qui traitent tout ça, mais il y a aussi plein d'avis de fiqh. Donc il est beaucoup plus, chez quelques savants, ouvrage de fiqh que ouvrage de hadith. Vous voyez? Donc, il ne déclasse pas comme ça. Alors, rappelez-vous, là, on a dit les ouvrages importants du hadith. Donc, on a dit numéro 1, les livres des Sahah. Maintenant, numéro 2, les Jawami', les livres regroupants, ou bien El Jawami'. Dernièrement, on a assisté à un grand cheikh. Naqshbandi, il y a écrit dernièrement un recueil, un grand jamais, où il a rassemblé la plus grande encyclopédie des livres de hadith. Il a tout mis à l'intérieur avec Cheikh Ali Jumu'a. D'accord, il a tous les ouvrages de hadith. Très important, le travail il y a 16 tomes. Tous les ouvrages de hadith, 16 tomes. Donc on a les livres de Sahah, deuxièmement les Jawami', troisièmement les Masanides. Je préfère qu'on garde ça, on garde en arabe. Hein. Parce que, on garde en arabe pour se rappeler. Donc les Sahah, les Jawami', les Masanides, ça c'est troisièmement. Quatrièmement, les Ma'ajim, c'est combien ça? 1, 2, 3, 4. Cinquièmement, les Mustadrakat. Mustadrak. Hein, et pluriel mustadrakat. Sixièmement mustakhrajat. On a les mustadrakat et mustakhrajat. Et à la fin, on a Al-Ajza. Al-Ajza. Al-Ajza qui veut dire les parties. Al-Ajza, juz. Vous savez, en Orient, ils ne disent pas Hizb, ils disent juz. Quand Coran, d'accord. Al-Ajza. Al-Ajza. C'est bon? Donc les Sihah, Jawami', Masanid, Ma'ajim, Mustadrakat, Mustakhrajat, Ajza. On a parlé des Sihah. Maintenant, on va parler des Jawami'. Alors, ce genre d'ouvrage traite en général de 8 grands sujets, de 8 grands sujets, à savoir la croyance, les chapitres, hein, ils disent comme ça, Babu Kada, Babul Aqaid, chapitre de la croyance, d'accord. Traite de la croyance, chapitre de la croyance, chapitre des ahkam, des commandements, hein, chapitre. Ils appellent ça raqa'iq, on va dire de spiritualité. Raqa'iq. Raqa'iq, des choses fines. D'accord, de raqa'iq, c'est-à-dire de questions du cœur, hein, des raqa'iq, des spiritualités. Chapitre qui concerne adab al-ta'am al-sharab, comme on dit, c'est-à-dire le comportement, le comportement, bien les bonnes manières pour manger et pour boire.
C'est des chapitres qu'on retrouve obligatoirement ou...
Oui, en général, dans ces ouvrages, on retrouve, ils sont connus par ces huit grands chapitres. D'accord. Donc, le bon comportement ou la bonne manière de boire et de manger. Le chapitre, on trouve le chapitre du tafsir, c'est-à-dire l'exégèse, l'histoire et les siyar. C'est pour ça qu'on les appelle al-jawami', c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est immense. Voilà. L'autre chapitre, chapitre du voyage et des chemins, les éloges. Hein, chapitre du voyage et des éloges. Vous avez aussi le chapitre des fitan. Hein, troubles, problèmes, tout ça, c'est ça fitna. Désordre, tout ça. Tout ça, ça tourne autour. Ensuite, vous avez Bab al-Manaqib ou al-Mathalib, c'est-à-dire chapitre des bonnes et des mauvaises qualités. Chapitre des bonnes et mauvaises qualités. Alors, je pense qu'il y en a 8. Hein. Alors, le livre qui traite de cela, on l'appelle Al-Jami'. Vous voyez, parce que pourquoi Jami'? Parce qu'il regroupe quand même des sujets importants. Il a regroupé, il n'y a pas un seul sujet. Et parmi ces ouvrages-là, Jami' al-Bukhari, Jami' al-Tirmidhi. Alors, Bukhari n'a pas écrit que le Sahih. D'accord. Jami' al-Bukhari, Jami' al-Tirmidhi. Naam. Troisièmement, les Masanides. Masanides, qui est pluriel, son singulier, c'est Musnad. Musnad. Naam. Donc, ce sont les ouvrages dont les hadiths sont cités selon les noms des Sahaba. Vous avez le Musnad de l'Ahmad. Quand vous allez ouvrir Sahih al-Bukhari, qu'est-ce que vous allez trouver dans les chapitres? Chapitre de la prière, chapitre du jour, chapitre... Dans le Musnad de l'Ahmad, non. Vous allez voir les livres rapportés, les hadiths rapportés par Abu Bakr Siddiq, les hadiths rapportés par Abu Huraira, les hadiths rapportés par chaque Sahabi. Ah. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire un Musnad? Un Musnad, c'est un livre de hadith où les hadiths sont rapportés, c'est pas par le sujet traité par le hadith, mais par le compagnon. On va regrouper tous les hadiths que Abu Huraira a dit, tous les hadiths que Aïcha a rapportés, tous les hadiths que chaque sahabi a rapporté. Donc on appelle Musnad. Donc on a le Musnad de l'imam Ahmed, on a le Musnad de Abu Hanifa. Oh, Abu Hanifa, il n'a pas sa science, ce point de vue hadith, il est... Il a un Musnad de sahabi. Mais tu lui reproches quoi de... Il ne rapportait pas 15 chaînes. Ils s'en foutent ces gens. Alors, on a le Musnad de l'Ahmed, on a le Musnad de Abi Daoud. Abu Daoud Tayal ici. Hein. Abu Daoud Tayal ici, mort en 204 de l'Hégire. Donc le plus célèbre, c'est le Musnad de l'Imam Ahmed. Pour l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle... Al-Qawlu Al-Musaddad في الذبي عن مسند الإمام أحمد. La parole, on va dire, forte ou directe, afin de, de défendre le Mosnad Ahmed, où il ramène tous les arguments qu'il n'y a pas un hadith forgé dans le Mosnad Ahmed. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il peut y avoir un ou. Bon, l'imam Bouhajar, il nous dit qu'il n'y en a pas. D'accord. Naam. Fi dhabbi an masnadi l'imam Ahmed. Naam. On passe maintenant les ma'ajim. C'est le numéro 4. Ma'ajim. Ma'ajim, c'est pluriel de mu'jam. Ma'ajim, c'est le pluriel de mu'jam. Mu'jam. Donc ce sont des hadiths qui sont cités, c'est-à-dire répertoriés, selon les noms des shuyukh, ou bien des pays, ou bien des tribus, mais qui sont classés par ordre alphabétique. Mais qui sont classés par ordre alphabétique. Abata Fajimha. D'accord. Ensuite, on a le Mustadrakat, numéro 5. Qui est pluriel de Mustadrak. Oui. Oui. C'est-à-dire un hadith qui parle d'une tribu, par exemple, ou un hadith qui parle de. C'est-à-dire un cheikh qui a rapporté ce hadith, ou bien une tribu, ou bien par pays, lui, il va le mettre par ordre alphabétique. Par exemple, A, Ba, Ba, tous les hadiths qui parlent de pays qui pensent par Ba, tu le trouveras. Ou bien les tribus. Tu as les tribus qui commencent par Ja. Plein de tribus. Les hadiths qui parlent de telle tribu, Jim, on les trouve tous les hadiths qui parlent de cette tribu. Parce que lui, il a fait cette méthode. Ils ont fait cette méthode pour faciliter la recherche. À l'époque, déjà à leur époque. Donc c'est un peu l'informatique d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai ou non, l'arborescence, etc. C'est-à-dire, tu cherches un hadith, et tu ne sais pas où. Des fois, tu sais, un hadith qui est dans un chapitre, mais qui est classé dans un chapitre de fiqh, mais en même temps, dans ce hadith-là, il parle d'une tribu. Lui, il te met directement par l'alphabétique. Les hadiths des tribus parlent d'alphabétique, etc. Le fond.
C'est la tribu qui est citée dans le hadith ou la tribu qui le rapporte?
Non, non, non. C'est la tribu qui est citée. C'est la tribu, c'est pas la tribu qui le rapporte.
Donc, par rapport à ce qui est cité dans le hadith, on va.
Tout à fait, exact. Tout à fait. Mais on a pris en considération les chouyours qui l'ont rapporté, le pays cité, la tribu, etc. etc.
Il peut être répété
Il peut être répété. Il peut être répété. Exactement. Tout à fait. Comme le plus célèbre, le Mu'jam de l'imam Tabarani, le Mu'jam de Tabarani, il a le grand, le moyen et le petit. Il a trois ma'ajim. Le grand, le moyen et le petit. Le kabir, le mutawassat, le sarir. Alors, on a terminé des ma'ajim, on passe au mustadrakat. Donc on a dit le mustadrakat, c'est pluriel de mustadrak. Mustadrakat, pluriel de mustadrak. D'accord? Alors, donc, mustadrak qui veut dire en arabe, on va dire rattraper. C'est-à-dire, vous avez le Sahih Bukhari. L'imam al-Hakim, il a écrit un livre qui s'appelle Mustadrak. Il connaît les conditions de l'imam Bukhari, il va essayer d'appliquer les mêmes conditions de l'imam Bukhari et trouver des hadiths qui répondent aux conditions de l'imam Bukhari, mais que l'imam Bukhari ne les a pas mis dans son livre. Complété. Voilà, on va dire complété. Donc le plus célèbre parmi ses ouvrages, c'est le Mustadrak de l'imam al-Hakim. Il s'appelle comme ça le livre, Mustadrak al-Hakim al-Naysaburi ala al-Sahihain. C'est quoi al-Sahihain? Bukhari muslim. Donc lui, il a pris les conditions d'authentification du Bukhari muslim, il voulait rester fidèle à leur méthode d'authentification, et il a trouvé des hadiths qui ne sont pas dans leur ouvrage. Donc il a écrit un livre pour dire, voilà, ces hadiths, ce sont des livres, ce sont des hadiths authentiques, selon Bukhari et muslim, et qui ne sont pas dans leur ouvrage. Est-ce que vous avez compris? Donc il a rattrapé et complété. Mais le problème, que beaucoup de hadiths qui sont dans le Mustadrak, ils ne sont pas authentiques. C'est que lui, il a été fidèle, il a essayé d'être le plus fidèle possible, de dire voilà, il y a des hadiths authentiques que les deux grands imams n'ont pas écrits dans leurs ouvrages et qui sont authentiques selon leur méthodologie. Mais après que les savants sont venus, ils ont vérifié est-ce qu'ils sont authentiques, ils ont trouvé que il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont authentiques, mais ils ont trouvé aussi qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas authentiques. Ça vous montre quel quoi? Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire que l'authentification de Bukhari musulman n'était pas quelque chose de simple. S'ils ont laissé des choses, c'est qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a, même s'ils n'ont pas dit. Quelqu'un grand savant du hadith vient après lui, après eux, et de leur dire, voilà, ça vous a échappé, des hadiths. Attends, c'est pas n'importe qui Bukhari musulman. Si on ne les a pas dit, d'autres sont venus, ils ont dit, attends, si le Bukhari ne l'a pas dit, voilà la raison. Mais il y a effectivement des hadiths que l'imam Hakim, pour ne pas diminuer sa valeur, que c'est vrai, c'est des hadiths authentiques. Mais faut, Inch'Allah. Et cela, ce que je viens de dire, c'est la parole de l'imam Suyuti dans son livre Tadrib al-Rawi, page 100. Vous savez, l'imam Suyuti, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une sommité pas possible. Pas possible. Dans la science du hadith, quand on va lire qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait, on dit celui-là, il connaît que ça. C'est un génie hors norme. Mais quand on le voit dans le faire, dit subhanallah. Ensuite, tu vas le voir dans le tasawuf, c'est inimaginable. Tellement il a écrit, je vous ai dit une fois, il a écrit tellement d'ouvrages, il s'est dit un jour, je vais écrire quelque chose que personne n'a écrit. Je vais écrire quelque chose que personne n'a écrit dans. Il a dit, je vais faire l'i'rab. Ça veut dire l'i'rab. Ça veut dire l'i'rab. Tu prends une phrase, tu l'analyses grammaticale. Analyse grammaticale. Il a dit, je veux faire l'i'rab du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, par exemple, ذهب الولد إلى المدرسة ذهب فعل الماضي مبني على الفتح الولد فاعل مرفوع بالضمة إلى حرف جر المدرسة مجرور بكسرة على ظاهر يفيد توسا pour le Coran Karim. Et ça rigole pas, le Coran Karim, c'est condensé, c'est dans une phrase, tu vas trouver. Il a dit, mais le Coran Karim, il a dit, il y en a ceux qui l'ont fait. On m'a précédé. Donc il y en a déjà qui l'ont fait. Il a dit, je vais faire quelque chose que personne n'a fait. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le musnad de l'imam Ahmed 40,000 hadiths, il lui a fait l'Arabe. Vous imaginez 40 000 hadiths appelés. Il ne parle pas de contenu, hadith, machin. Et arabe. Tellement il a écrit dans tout. Et maintenant, quelqu'un qui vient, l'imam Suyuti. Tu connais l'imam Suyuti. Il faut voir. Il faut peser, c'est quoi l'imam Suyuti. Ça ne rigole pas. Donc il a très très bon ouvrage, Tadrib al-Rawi, sur sa commentaire de Taqrib al-Nawawi. L'imam Nawawi, il a écrit un livre qui s'appelle Taqrib. Lui, il a fait commentaire. Dans la science du hadith.
Non. Apparemment, par rapport à la quantité de ce qu'il a écrit et le nombre d'années, tout ça, c'était 40 pages par jour.
Sahih. Moustakhrajat. Alors, le moustakhrajat, c'est kharaja. Kharaja, c'est quoi kharaja? C'est sortir. Kharaja, mais moustakhraj. Extraire. Faire sortir, c'est extraire. D'accord? Extraire. C'est que celui qui fait, celui qui écrit l'ouvrage, il va prendre ces hadiths-là, il va leur trouver leur chaîne de transmission vers lui. De lui, je vais vous expliquer. On a aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, un grand cheikh du hadith aujourd'hui. Pour le citer, Cheikh Abdel Ba'ath al-Kattani. Sahla. Il est vivant, marocain, mashallah, grand savant, kétain, etc. Il rapporte Sahih al-Bukhari par chaîne de transmission jusqu'à l'imam Bukhari. On a Sahih al-Bukhari entre nos mains. Comment il est répertorié Sahih al-Bukhari? Il est répertorié chapitre de la prière, chapitre de siyam, chapitre, etc. Un savant, il vient, il va nous écrire. Sahih al-Bukhari, il garde le contenu des hadiths. Mais les chaînes de transmission de chaque hadith, il va nous dire ses chaînes à lui vers chaque hadith. Il dit, voilà, c'est-à-dire ça peut différer de la chaîne qu'on a connue de l'Bukhari. Donc il peut rajouter, il peut sauter, donc il a ses chaînes à lui. à ce livre-là. Donc il va nous rapporter ses chaînes à lui vers chaque hadith, en prenant les hadiths de Bukhari. Et il nous écrit un nouveau livre, selon ce qui va de lui jusqu'à le hadith. Vous avez compris? Donc extraire des hadiths et leur relier les ramifications de chaînes de transmission jusqu'au cheikh qui écrit le hadith, l'ouvrage du hadith. Donc extraire des hadiths et les relier à des chaînes de transmission qui vont jusqu'au cheikh qui écrit le hadith. Ça veut
dire qu'il y a 20 personnes dans la chaîne?
On va dire 20, 30, 40, ça peut, tout dépend. D'accord? C'est pas. Ça, d'accord? Il peut aussi, la chaîne que l'imam Bukhari nous raconte, on ne va pas la trouver. On va trouver le contenu, mais lui, il nous ramène une autre. D'accord? Pas forcément, on va trouver la même. Mais fond. Mais qui est authentique. Non.
J'ai pas compris la chaîne de transmission qui relie, comme Cheikh Bukhari, l'imam Bukhari, et la chaîne de transmission qui relie le hadith.
Donc c'est-à-dire, on a la chaîne simple. On a le livre de Bukhari, il est rapporté par le Cheikh Al-Kattani, tu dis, moi je l'ai entendu de mon cheikh, de son cheikh, de son cheikh, de son cheikh, jusqu'à l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, ensuite on a sa chaîne, jusqu'à Rasulullah. D'accord? Celle-là, elle est claire. Me fous? On a une autre chaîne. Ce hadith-là, il n'a pas été rapporté que le Bukhari. Il a été rapporté par d'autres. Lui, il va t'apporter ses chaînes à lui, du même hadith, mais par d'autres chaînes. Tout en gardant tous les hadiths de Bukhari. Il va ramener tous les hadiths de Bukhari, mais il va nous apporter ses chaînes à lui, à ce hadith-là.
Ça renforce le hadith.
Donc il va nous apporter ses chaînes à lui, pas les chaînes des autres, que ses chaînes à lui. Et ça, il faut être quand même un vrai rapporteur de hadith pour le faire. Pour connaître, on a dit Bukhari, 9000 hadiths, etc. Il te faut au moins 9000, tu vois. Et encore, chaque hadith, des fois, il a 3-4. Il y a des gens qui ont ça aujourd'hui. Il y a des gens. Ils sont ceux qui prétendent rapporter un hadith à Rasulullah qui ne rapporte pas un seul hadith par chaîne de transmission et venir parler d'authentification de un seul hadith par chaîne de transmission. Ce sont des gens qui rapportent 9000 hadiths par différentes chaînes. Non, mais faut Inch'Allah, Mustakhrajat. Alors, dernièrement, alors pour le Mustakhrajat, vous avez un exemple de Mustakhrajat, vous avez Mustakhraj Abi Awana sur Sahih Muslim. Abi Awana. Awana. Sur Sahih Muslim. Vous avez Mustakhraj Abi Ali At-Tawsi sur At-Tirmidhi. Mustakhraj Abi Ali At-Tawsi sur At-Tirmidhi, etc. etc. C'est pas la peine de citer tout le monde. Alors, dernièrement, on a dit Al-Ajza'. Al-Ajza'. Oui.
Le Mustakhraj, c'est uniquement sur les 6 ou ça peut être sur d'autres?
En général, c'est sur les 6. Comme c'est considéré comme les. Mais ça peut être. En général, c'est sur les 6. Mais ça peut être. Donc, ce sont des ouvrages de hadith. Par exemple, vous avez un livre de hadith. Vous avez, c'est-à-dire l'adza, les parties, qui rapportent dans un livre où on n'a que les hadiths rapportés par tel sahabi. Par exemple, on n'a que les hadiths rapportés par l'imam, par Sina Abu Bakr al-Siddiq. Les hadiths rapportés par Sina Ali, hop, dans un seul livre, un savant, il va nous écrire ce hadith. Comme il peut être un livre de hadith qui traite un sujet. Vous avez les hadiths traitant du siyam. D'accord? Vous avez un livre, hein? Un livre traitant du siyam. Donc on va remettre dedans tous les hadiths qui traitent du siyam. D'accord? Vous avez un livre de hadith qui traite du qiyam al-layl. C'est quoi qiyam al-layl? Le fait de se lever la nuit, c'est-à-dire hein, les prières nocturnes. Comme l'ouvrage de l'imam Al-Marwazi, le livre de prière nocturne de l'imam Al-Marwazi. Al-Marwazi. Hein? Al-Marwazi. Vous avez un livre جزء في صلاة الضحى للسيوطي. Ça fait comme ça. جزء في صلاة الضحى للسيوطي. Un livre sur la prière de Doha de Suyuti. Où on a dans le livre là que des hadiths qui tracent de Salat al-Doha. C'est quoi Salat al-Doha? La prière de la matinée qui est entre 9h jusqu'à midi. D'accord. Alors j'ai vu dernièrement, il a écrit très intéressant, il a rassemblé tous les hadiths rapportés par Aïcha radiallahu anha. C'est intéressant. Et à partir de là, il a écrit Fiqh Aïcha. Mais bon, c'est quand même, c'est pas facile. Parce que il faut être quand même, d'accord, il faut, parce que parler de Fiqh Aïcha, parler des hadiths que Aïcha a rapporté, d'accord. Mais ensuite, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a, elle-même, elle a rapporté des hadiths qu'elle-même, elle ne pratique pas. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment un moujtahid, un vrai spécialiste au solfaire, c'est étudier ça au sein d'une école, pas... D'accord, c'est comme s'il va nous faire un fiqh de Omar al-Khattab, un fiqh de Aïcha, un fiqh... Qu'est-ce que c'est que ça?
Ces catégories, en fait, c'est pour aider la recherche? Pour aider les savants qui font des recherches?
Oui. Donc, oui. Oui, pour les aider, et pour... parce qu'en général... C'est pour.
C'est mieux classé, donc...
c'est une question de classification, surtout. Surtout ça. Voilà, exactement. Si on veut faire la recherche sur Ahadith qui soit Siyam, qui concerne Siyam, on va les trouver tous ici. Ensuite, c'est à discuter. D'accord. Et pourquoi mettre les Ahadith qui sont rapportés que par un Sahabi? Aussi, ça aide quand on va étudier les chaînes de transmission, etc. D'accord. Tout dépend. On les classe, sûrement il y a quelque chose. Oui. Les masanides, c'est que dans la troisième, on rapporte que les hadiths rapportés par tel compagnon. Par contre, dans la septième, on peut les rapporter selon un compagnon comme on peut les rapporter selon un sujet. Donc il y a un rajout. Vous avez compris? Alors, un titre. Quelles sont les conditions du rapporteur du hadith? Les conditions du rapporteur du hadith. Et quelles sont les conditions du rapporteur du hadith et quels sont les paramètres des savants du hadith? Les paramètres du jugement. Ce n'est pas n'importe qui va rapporter un hadith. Ça, quelles sont ces conditions? Alors, donc les spécialistes de, c'est-à-dire les spécialistes de la science du hadith ont fait des conditions. Il faut être sain d'esprit. Un fou ne peut pas rapporter un hadith. Il faut avoir ce qu'on appelle abbapt, c'est-à-dire une mémoire précise. Mémoire, mémorisation et précision. Vapt, c'est mémoriser avec précision. Donc, bonne mémoire, sain d'esprit, bonne mémoire avec précision. Bien sûr, il faut être musulman. Ça, c'était les conditions des grands savants du hadith au début. C'est-à-dire, quand ils ont commencé ensuite, on a ajouté des conditions. Alors, on a demandé à Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est un grand spécialiste du hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui est mort en 160 de l'Hégire. On lui a demandé de qui vous ne prenez pas le hadith. Regardez, il ne lui a pas dit de qui vous prenez le hadith. Ils lui ont dit de qui vous prenez pas le hadith. C'est bien comme question. C'est-à-dire, tu peux te poser deux questions. Quelles étaient les conditions de quelqu'un pour prendre le hadith? Ou bien, pourquoi tu ne prends pas le hadith? Si tu trouves quelqu'un, tu ne prends pas de lui parce que quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? S'il ne rapporte des choses inconnues, s'il nous rapporte des choses inconnues, mais tenez-vous bien, il les rapporte de qui? Des gens connus. Des gens célèbres, connus. S'il nous apporte des choses bizarres, inconnues, il nous rapporte des grands rapporteurs connus. C'est bizarre celui-là. C'est-à-dire, n'y a que lui qui connaît ça, quoi. Parce que les autres sont... C'est-à-dire, il a rapporté ça de qui? Il a rapporté ça de le Bourdet, de le Qardaoui, de le Ghazali. Mais c'est une chose bizarre. Ces gens-là, on n'a jamais entendu parler qu'ils disent ça. Vous avez compris? Là, on est en train de savoir tel pourquoi on ne prend pas de lui. On ne prend pas de lui parce que c'est quelqu'un, quand on lui dit d'où tu rapportes ça, il nous dit je le rapporte des gens tel qui sont connus. Et ce n'est pas une ou deux fois. La plupart des fois, il nous dit ça. Si la plupart des fois, il nous rapporte des choses inconnues par des gens célèbres et connus, hein, pour que la phrase soit correcte. Parce que les gens connus, célèbres, tu nous as dit une fois, voilà, moi le Ghazali m'a dit ceci, cela. Bon, on n'a jamais entendu le Ghazali dire ça, mais bon, d'accord. Mais demain tu nous rapportes la même chose, quelque chose qui n'est pas connu de le Ghazali. Et à la troisième fois, mais tout le temps, toi, le Ghazali t'a dit que toi, tu es ce jour. Donc ça, vous avez compris. Parce que le Ghazali, c'est quelqu'un de connu, il est censé de faire des conférences. Tout le monde, normalement, connaît ces choses-là. Donc si quelqu'un fait ceci, hop, on le met dans la catégorie, ne prenez pas de lui. C'est bon? Donc l'imam Shu'ba dit, si la plupart du temps il nous rapporte des choses inconnues, c'est-à-dire il rapporte des choses des gens connus, on laisse son hadith. Aussi, si on fa'idatuhima bil hadith, il a été accusé pour une raison ou une autre de ce qu'il rapporte du hadith. Mafhoum inshallah. C'est-à-dire il est accusé pour falsification, pour mensonge, pour ceci, cela, pour n'importe quelle raison. Il a été accusé de ce qu'il rapporte. On ne prend pas ce hadith. Mais bon, quelqu'un il va dire, mais bon, ça c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Il y en a un autre qui te dit, oui, bon, il a été accusé une fois. Non, chez les spécialistes de hadith, il a été accusé une fois. Il ment une fois, il ment mille fois. On a vu, quand on a discuté avec des wahhabites, il nous apporte un hadith, subhanallah, dans la aqidah, il nous apporte un hadith pour argumenter leur avis, un seul hadith rapporté par quelqu'un qui est connu. Les savants, ils ont dit que c'est un menteur. Il ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la question d'Ibn Abi Shayba. Donc, comment vous vous basez sur un rapporteur qui est connu parce qu'il ment? Il te dit non, il n'a pas menti dans cette question-là. Je suis désolé. Donc, chez les spécialistes du hadith, c'est un menteur. Point la ligne. D'ailleurs. Ensuite, si son erreur, elle est célèbre et connue, quand il rapporte les hadiths. Il est connu, celui-là, il est connu, à chaque fois qu'il nous rapporte les hadiths, il se trompe. C'est-à-dire, il se trompe des noms, il se trompe il fait des erreurs, au lieu qu'il dit, le prophète a autorisé, il n'a pas autorisé, au lieu qu'il dit, le prophète a cité, c'est-à-dire, il parlait de telle chose, or le prophète parlait, c'est-à-dire, son erreur, elle est fréquente. D'accord? Non. C'est toujours l'imam Shu'ba qui dit. D'accord? Donc si son erreur elle est fréquente de ce qu'il rapporte, aussi on laisse. Si son erreur elle est rare, ma'alish, l'erreur est humaine. Mais si c'est une erreur fréquente, on laisse. Ça vous rappelle quelque chose? Cheikh Al-Albani, il a combien d'erreurs dans la science du hadith? Mais pas erreur. Où il a authentifié un rapporteur et il l'a critiqué en même temps. Dans le même livre. Des centaines de fois. Comment est-ce que tu peux te tromper une fois? Mais pas des centaines de fois. Ou tu authentifies un hadith et tu le rends faible en même temps. Un rapporteur, tu le massacres ici et tu dis, là, il est très bien, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, tu peux te tromper une fois, deux fois. Mais regardez les savants du hadith. Je suis à base qu'il dit. Si son erreur, elle est fréquente, non, on ne prend pas de lui. S'il nous rapporte un hadith, que tout le monde est d'accord qu'il est tout le monde est d'accord qu'il le rapporte d'une façon fausse. C'est-à-dire, donc on ne prend pas seulement ce hadith-là. Il nous rapporte un hadith, mais tous les rapporteurs disent non, ce n'est pas de cette façon. Donc on ne le prend pas de lui, ce hadith-là, puisque tout le monde, il contredit tout le monde. Ça, c'est l'imam Shu'ba qui nous dit ça. C'est fini. On trouve ça dans l'ouvrage de l'imam Al-Hakim, intitulé Science du Hadith, connaître la science du Hadith, page 62. Alors, les savants du Hadith, concernant la mémorisation et la précision, c'est non seulement la mémorisation et la précision, mais aussi la compréhension. Donc mémorisation, précision et compréhension. Non. Il conditionne que cela, le rapporteur du hadith doit l'avoir mémorisé avec précision et compréhension jusqu'au moment où il le transmet. Du moment où il l'a entendu jusqu'au moment où il l'a transmis. Cette précision-là, vous savez, pourquoi? Parce que imaginons que 10 ans après, miskin ce rapporteur de hadith, il a vieilli, il commence à oublier. On va le critiquer, on va dire non, celui-là, il oublie, celui-là, non, il est devenu fou, celui-là. Ils vont vérifier quand est-ce qu'il est devenu fou, quand est-ce qu'il a commencé à oublier, quand est-ce que... C'est pas dans la période où il a rapporté le hadith. Dans la période où il a rapporté le hadith, il était quelqu'un qui mémorise. Il était quelqu'un de... C'est pour ça qu'on étudie le hadith à un moment T, c'est-à-dire selon le temps et l'espace. C'est-à-dire, on prend en considération le moment où il a rapporté le hadith, où il a entendu, du moment où il a entendu jusqu'à ce qu'il a rapporté. D'accord ? De l'a entendu rapporter. Si, en ce moment-là, il l'a bien mémorisé, il l'a avec précision, il l'a bien compris, c'est bon. Sur ce hadith-là, vous voyez la précision? Non. La mémorisation et la précision et la compréhension diffèrent selon les rapporteurs des hadiths. Si pour cela, on a une catégorie de rapporteurs, on a une catégorie de rapporteurs qui sont fiables. On a une catégorie, la première catégorie de rapporteurs qui sont fiables, mémorisateurs, avec précision et une très bonne compréhension. Et on a d'autres qui sont moins qu'eux. Ils sont des bons rapporteurs, des bons mémorisateurs, mais ils ne sont pas au même degré que les autres. Si cette deuxième catégorie nous rapporte des hadiths de temps en temps, bien rarement, ça arrive, on va dire, si ça arrive que cette deuxième catégorie qui mémorise bien, etc., diverge de ce que ceux qui mémorisent ont rapporté. C'est-à-dire qu'on a les bons mémorisateurs, etc. ont rapporté un hadith, mais il n'est pas rapporté de la même façon, diverge de la façon de ceux qui mémorisent bien. Ce qui est pris en considération, bien sûr, ce sont ceux, les bons mémorisateurs, précisions, etc. Mais est-ce que, à partir de là, on rejette, c'est-à-dire ces bons mémorisateurs, etc., de deuxième degré, on va les rejeter? Si ce qu'ils divergent, ça leur arrive de diverger, non, on les garde toujours dans la deuxième classe. S'ils divergent tout le temps, même avec leur bonne mémorisation, bonne précision, etc., leur hadith il est rejeté. Regardez la précision. Donc, comment on peut dire? Donc, là. Tout à fait. S'ils divergent tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Ou bien. Ils seront dans la catégorie des rejetés, même s'ils ont une bonne mémorisation, bonne précision, bonne compréhension. C'est qu'ils ont quelque chose dans le cœur. Peut-être qu'ils appartiennent à des sectes. Peut-être qu'ils ont quelque chose. D'accord. Ou bien ils ne mémorisent pas et on les a mal jugés. Comme quoi ils mémorisent, il y a quelque chose. Puisqu'ils divergent des bons mémorisateurs, des bons rapporteurs, des bonnes compréhensions, donc il y a un problème. Vous avez écrit? Alors, ça toujours on le trouve chez l'imam Suyuti dans le Tadrib. Hein. L'ouvrage de l'imam Suyuti dans le Tadrib, page 110. L'imam Shu'ba, subhanallah, il a une parole extraordinaire. Écrivez cette parole de l'imam Shu'ba. Il dit, un hadith isolé ne vient que d'un homme isolé. Un hadith isolé ne vient que d'un homme isolé. لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. D'accord, isolé. C'est-à-dire isolé dans bizarre. Ça ne ressemble pas à ce qui est chèvre. Chèvre, d'accord. Alors, l'imam Ibn Mubarak, rahimahullah, Abdullah Ibn Mubarak qui est un tabi'i. Alors, ça fait un peu rire que le grand tabi'i, Abdullah Ibn Mubarak, il fait le ta'wil de kanaf d'Allah subhanahu wa ta'ala par le sitr. Et on a un grand salafi du XXe siècle qui s'appelle Mubarak Afouri qui vient et dit on n'a pas besoin de ce ta'wil. Hein. Il remet en cause le ta'wil de Abdullah Mubarak qui est un tabi'i. Alors qui est le salafi? Arrêtez de prétendre à des salafis alors. On n'a pas des salafis puisque vous contredites le ta'wil de Abdullah Mubarak, il faut le laisser à côté. Taïb. Alors l'imam Shu'ba est rapporté par. Dans un livre qui s'appelle Al-Kifaya 141, Al-Kifaya fi ilm al-riwaya. Alors, Imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, nous dit faites attention. Faites attention d'accepter les hadiths de ceux qui se trompent et qui ne reviennent pas sur leur erreur. C'est-à-dire, il s'est trompé, il reconnaît qu'il a fait une erreur, mais il ne revient pas. Il persiste. Non, hadith comme ça. Oui, tu lui montres que. Parce que s'il était quelqu'un de sincère, ça lui manque la sincérité. Donc, on ne prend pas de lui. Parce qu'une fois qu'on lui a montré, non, le hadith ne se rapporte pas comme ça, il devrait revenir. S'il revient, on dit que c'est bon. Il est quelqu'un de bien, il a fait l'erreur. Mais s'il persiste, il dit, non, moi je ne vais pas être comme ça. Il dit, ne prenez pas de lui. Il dit aussi, ne prenez pas aussi d'un menteur. Il a menti une fois, il ment deux fois, trois fois, quatre fois. Subhanallah. Man kadhaba alayya hadithan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui ment sur moi un hadith qu'il prépare sa place en enfer. Sa place elle est déjà préparée en enfer. Il ment sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et il prétend hadith. Tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Alors, n'am.
Ça c'est jugé comment? C'est là comme quelque chose de grave, un gros péché ou comme du
kufr? Pas du kufr, mais des gros péchés. Grand péché. Ensuite, si c'est Aqidah, tout ça, on va voir. Il y a des savants qui ont dit qu'il peut être kufr. Non. Non. Hadith sahih. Il est authentique. Ici, il dit aussi ne prenez pas des gens de bid'a qui appellent à leur bid'a. Ne prenez pas des rapporteurs de hadith qui appartiennent à des sectes égarées, mais qui font appel à leur dérapage. Bien sûr, on prend deux. Alors, vous avez Imam al-Bukhari dans son sahih, il a apporté des hadiths, des chiites et des kharijites. Des chiites et des kharijites, mais qui sont des gens connus par une bonne mémoration, bonne conduite, bonne pratique, ceci, cela. Et les chiites et les kharijites, il n'a jamais insulté les sahaba. Il a sa croyance à lui, il n'appelle pas au chiisme. Ou bien il n'appelle pas au kharijisme. L'imam Bukhari, il a pris deux. Non.
Ceux qui vont dire, par exemple, que les khawarij, nous considérons comme des confrères, qu'est-ce qu'ils font du hadith dans lequel il y a
kharijisme? Ils sont dans l'embarras. Ils sont dans l'embarras, parce que l'imam Bukhari, il a pris. Donc ils sont dans l'embarras. D'ailleurs. Parce que Sina Ali, il a dit, hein. Il a dit, est-ce que c'est du kufar? Ils ont dit non. Est-ce qu'ils ont dit ils ont fui le kufr, comment on peut dire le kufr? Alors ils sont quoi? Ils disent ce sont nos frères qui sont révoltés contre nous, ce sont des frères. D'accord. Alors, وَرَجُلٌ لَا يَحْفَظُ فَيُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ. Un homme qui n'est pas mémorisateur du hadith, mais il se base sur sa mémoire pour rapporter le hadith. Parce qu'il existe des rapporteurs de hadith qui ne mémorisent pas, mais ils écrivent. D'accord? Celui qui ne mémorise pas, il écrit tout ça, il ressent tout ça, on prend de lui, puisqu'il a ses écrits, il les protège, etc. Mais celui-là, non seulement il ne mémorise pas, mais il n'écrit pas, il veut nous rapporter des hadiths de sa mémoire. Donc on ne prend pas, même Mloumbak nous dit, d'un rapporteur qui rapporte des hadiths de sa mémoire. Et on sait qui ne mémorise pas. Alors ça, on le trouve dans la Kifaya aussi, page 143. Alors, on a dit, les savants du hadith ont mis des conditions. Les conditions, on a dit, être saint d'esprit, qu'est-ce qu'on a dit?
Mémoire.
On a dit l'adala. Non, j'ai oublié une chose, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Donc, ajoutez ça au début, hein, quand on dit les conditions du rapporteur. Donc, vous avez saint d'esprit, mémorisateur et l'adala, la fiabilité. Comment on peut traduire l'adala? Pas fiabilité. Comment? Digne de confiance. Vas-y, on va mettre ça. Voilà, digne de confiance, ensuite l'islam. Donc, saint d'esprit, mémorisateur, précision, digne de confiance, ensuite l'islam. Alors, l'adala, c'est le facteur le plus important des conditions du rapporteur du hadith. Al-adala. Là, on a dit digne de confiance, c'est ça? Al-adala. Qu'est-ce que les spécialistes du hadith veulent dire par ça? Alors, les spécialistes veulent dire qu'il soit exemplaire dans tout, dans tout ce qui concerne sa religion. Il faut qu'il soit exemplaire dans tout ce qui concerne sa religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être exemplaire dans tout ce... Masha'Allah, dans la salat, il est très bien. Dans le hajj, masha'Allah. Donc quand il fait la prière, il est top. Quand il a le hajj, masha'Allah. Mais dans le ciel, il mange le ramadan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien, c'est-à-dire, il faut qu'il soit dans tout son comportement. Il fait la prière, masha'Allah. Il fait le hajj, il fait zakat, il fait cela, mais il est injuste envers les gens qu'il fait travailler. C'est un patron, il a une entreprise, c'est un dictateur. Ça, c'est un musulman. Ça, on peut accepter la riwaya de lui. Etc., etc. Donc, il faut qu'il soit, donc, exemplaire dans tout ce qui concerne, c'est-à-dire sa religion. Voilà. Non, il faut qu'il soit musulman pour qu'il rapporte le hadith. Chiite, c'est un musulman. Non, c'est les gens du bid'ah, non. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit pervers. Il ne faut pas qu'il soit pervers, fasiq. Pervers. C'est-à-dire, on est en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire digne de confiance, adl. Il ne faut pas qu'il soit ceci, il ne faut pas qu'il soit cela. Tout ça, c'est des conditions qu'il doit remplir. Pervers. Les savants musulmans disent que la perversité, il y a deux genres de perversité. Fasiq bi qalb ou fasiq bi jariha. Pervers par le cœur et pervers par les organes. Donc il y a deux catégories de perversité. Fasiq bi jariha ou fasiq bi qalb. Donc deux catégories de perversité. Pervers par les organes, il boit de l'alcool, il fait la fornication, il fait cela, c'est-à-dire il fait les péchés par ses mains. Fasiq, pervers par le cœur, c'est quoi pervers par le cœur? Non. C'est la mauvaise croyance. Appartenir à une secte. Égaré. D'accord. Parce que la jalousie, tout ça, c'est des maladies. Tout le monde a. Le fond. Oui, ben oui, il faut qu'il soit, bien sûr, je suis d'accord avec le frère qu'il faut que le rapporteur du hadith soit pas... Mais, ça existe, la jalousie même dans des grands savants. Hein, bon. Oui. Alors, il faut qu'il soit connu, c'est-à-dire au maximum un ou des péchés par an. Les péchés, c'est-à-dire il a fait un péché. Bon. D'accord? Péché par organe. Pas les péchés par croyance. Si sa croyance, si on revient au bid'ah, s'il appelle à sa bid'ah, non, on le laisse. D'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle Subhanallah. En arabe, on appelle ça Khawarim al-Muru'a. Khawarim al-Muru'a. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent sur l'arabe? L'arabe, tu vois? مررت على المروءة وهي تبكي وقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. المروءة c'est une qualité de l'homme qui fait que il est exemplaire dans son comportement. Par exemple, il ne mange pas dans la rue, il s'habille correctement, il a un bon comportement quand il parle, c'est. Tout ça, c'est-à-dire les bonnes éducations pour akhlaq. Alors on a ce belle phrase que notre cheikh, rahimahullah, cheikh Mohamed, il nous rappelle, à chaque cours, il nous rappelle ces vers-là. Il dit, subhanallah, marartu ala al-umurati wa hiya tabki. Il donne dans cette poésie de deux vers, comme la moro'a, c'est-à-dire le bon comportement que je vais citer, il dit, c'est comme si c'est une femme, je suis passé, je l'ai trouvée en train de pleurer. Marartu ala al-umurati wa hiya tabki. Je l'ai trouvée. J'ai dit, pourquoi tu es en train de pleurer comme ça, tu t'arrêtes pas? Elle dit, pourquoi tu ne veux pas que je pleure, puisque les gens de la Moro'a sont tous morts. C'est-à-dire, elle pleure parce qu'il y a des morts. Ici, ça c'est les gens de la Moro'a, c'est-à-dire ceux qui ont le bon comportement, etc., sont tous morts. Et on pleure pour le mort, subhanallah. Donc le moro'a, salamatuhu min khawar il moro'a, c'est-à-dire qu'il soit quelqu'un qui a un très bon comportement, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le parler, que ce soit dans le dans toute sa vie courante en quelque sorte. C'est-à-dire on prend pas de lui des il n'est pas dur, il n'est pas ceci, cela, c'est-à-dire, tu vois, c'est un homme. C'est-à-dire on donne une grande considération à son éducation, comment il est fait. Tout ça, regardez, tout ça c'est des paramètres. Pourquoi? Pour voir s'il est digne. Ça, c'est une condition. On est en train de parler de la fiabilité, comme on a appelé ça. Digne de, hein? Digne de confiance. Sans parler de mémorisation, machin, etc. Et pas encore. Alors, l'imam al-Khatib al-Baghdadi le définit. Que veut dire digne de confiance? L'adl. Sa définition, Khatib al-Baghdadi. Il nous dit. C'est celui qui accomplit les obligations et fait ce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire. C'est ça, digne de confiance. Et s'abstient de ce que Allah Azza wa Jalla nous a interdit. Et ne fait pas les péchés, pas les grands péchés, les péchés, c'est-à-dire le musqita, c'est-à-dire qui voilà, qui rabaisse de sa valeur. Ne fait pas les péchés, oh, il a fait ceci. D'accord. Donc, il ne fait pas les péchés qui rabaissent de sa valeur en tant que musulman. Et aussi, il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Quelqu'un qui est, c'est-à-dire, il cherche la vérité. Il fait tout pour accomplir ce que Allah lui a ordonné dans son comportement. Il fait attention à tout ce qu'il dit. Alors, on trouve cela dans l'ouvrage de l'Kifaya, page 80. Alors, les savants du hadith, de cette qualité de digne confiance, l'ont tiré, vous savez, les savants du hadith écrivaient ça, ont tiré les qualités, c'est-à-dire ces conditions de la fiabilité, d'être digne de confiance, ils ont tiré ça du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs c'est l'imam al-Khatib al-Baghdadi qui dit ça, toujours, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se comporte avec les gens sans être injuste envers eux, bien, celui qui se comporte avec justice, sans être injuste envers eux, on va dire. Celui qui se comporte avec les gens, sans être injuste envers eux. Et qui ne ment pas quand il leur parle. Et s'il tient à ses promesses. Donc, je répète. C'est-à-dire, celui qui se comporte avec les gens, il n'est pas injuste envers eux. Et quand il leur parle, il ne leur ment pas, et qu'il tient à ses promesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, son comportement, il est exemplaire. Voilà. Et sa justice, elle est claire. Sa justice, elle est claire. Et sa fraternité, elle est obligatoire. La suite du hadith, on n'a pas encore fini le hadith. Wa harumat ghaibatuhu. Et il est interdit de parler derrière lui, sur son dos. parler de lui, puisqu'il a tout son camp maintenant, et si on parle de lui, donc c'est un problème. Alors, toujours Al-Kifaya, page 78. Donc, le hadith, il est fini. Hein. À partir de ces paramètres, les savants des sciences du hadith ont conditionné le rapporteur du hadith. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas un savant ou un roi ou un gouverneur ou une autorité qui n'a pas de défaut. C'est pour cela l'imam Ibn al-Musayyib, il y en a ceux qui le disent Musayyib, c'est le Musayyib. C'est pour cela l'imam Ibn al-Musayyib, qui est considéré comme le Sayyid al-Tabi'in, on l'appelle comme ça, le Sayyid des Tabi'in, c'est-à-dire le maître des Tabi'in. Tabi'in, c'est les élèves des Sahaba. C'est pour cela que le Sayyid des Tabi'in, qui est l'un des grands fuqaha, des sept fuqaha de Médine, l'un des grands sept fuqaha de Médine, a dit, celui dont le bon comportement est beaucoup plus et couvre son mauvais comportement, celui dont le bon comportement est beaucoup plus et couvre, c'est-à-dire il domine, son mauvais comportement est acceptable. L'imam Ibn al-Musayyib est mort en l'année 105 de l'Hégire. Alors, on va s'arrêter à cela. Après, c'est pour ça, rappelez-vous, on a parlé, la dernière fois, on a parlé de la science qui critique et qui, on a dit, critiquer ou, on va dire, accréditer ou donner de l'éloge pour les rapporteurs des hadiths. Parce que dans la critique, vous allez trouver tous ces paramètres dont on a parlé, ils vont les critiquer sur ces paramètres-là. Celui-là, il mémorise bien, moi. Celui-là, il est pervers. Celui-là, il est ceci, cela. Hop, alors, puisqu'il est pervers, donc, il est ceci, cela. Sadouq, kadhab, thika. Des fois, il dit thika, des fois, il dit thika, thika. Donc, il le double. Confiance, confiance. Il est très digne de confiance. Ou bien, une confiance. Ou bien, sadouq. Ou bien, ils disent, majhoul al-hal. Donc, on n'a rien de lui. D'accord. Je connais rien de lui. Donc, ils vont, cette catégorie. C'est en ayant tout cela qu'ils vont statuer sur le hadith, etc., etc. Donc, on va s'arrêter. Je sais que ça vous fait un petit peu fatigué, mais ces introductions, elles sont importantes avant de rentrer de qu'est-ce que c'est qu'un hadith authentique, quelles sont ses conditions, qu'est-ce que c'est qu'un hadith bon, quelles sont ses conditions, etc., etc. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ghalaq wal khatimi lisma qad sarra al-haqq bil haqq wal hadi ila sirat al-mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa qadar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallam wa sallam alhamdulillah. Assalamu alaykum.